Dans le cadre de son émission mensuelle Radio FM Plus 91 MHz à Montpellier 103.1 sur Nîmes, vous propose de rencontrer alors cette fois-ci quatre personnages. Eh oui, parce que on n'a pas pu faire moins. C'est d'ailleurs grâce à deux personnes ici présentes, Monsieur Michel Brassas. Monsieur Michel Brassas, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Haris Georgiou.
Bonjour.
Voilà, tous deux donc grecs, qui sont de passage sur Montpellier dans le cadre de leur association. Ils sont accompagnés aujourd'hui de Tony Agnanostopoulos, que vous connaissez parce que vous l'avez déjà rencontré sur notre antenne, monsieur.
Oui,
Tony Agnanostopoulos, bonjour.
Il y a 2 ans.
Voilà, ouais, bah, vous allez revenir encore. Hein, et aussi monsieur Julien Calvier, qui représente en fait l'université Paul Valéry, la section de grec moderne.
Bonjour.
Voilà, alors on est en pleine grécité en ce moment, tout va bien. Tout d'abord, on va donner la parole à messieurs Michel Prassa et monsieur Haris Georgiou, parce que l'un est physicien-chercheur. Hein. Alors, vous m'arrêtez hein, si je dis des bêtises,
non,
hein, il
n'y
a pas de problème.
Hein,
et monsieur Haris Georgiou, qui est architecte et aussi photographe, qui ont tous les deux la particularité d'être des anciens étudiants de Montpellier. Hein. Vous avez été étudiant à Montpellier dans les années 70, si je ne me trompe pas.
Tout à fait.
Hein. Et donc, aujourd'hui, bah, vous revenez sur les lieux du crime.
Voilà, pour nous retrouver entre nous et retrouver les amis d'ici.
Voilà, alors qu'est-ce qui vous a pris de vous mettre ensemble sur ce mouvement entre vous pour venir sur Montpellier, Monsieur Prassa?
Je crois qu'on avait énormément de souvenirs de cette période-là. Et c'était une période, effectivement, qui n'était pas toujours agréable à vivre pour nous, Grecs. Beaucoup d'entre nous, on est arrivés à Montpellier à l'époque où il y avait une dictature en Grèce. Donc c'était un peu difficile. On a tissé beaucoup de liens avec tous les étudiants grecs de cette époque-là. On a tissé des liens aussi avec tous les milieux associatifs à cette époque-là de Montpellier. Les étudiants français nous avaient aidés énormément à notre lutte à cette époque-là. Et puis, bon, chacun il a suivi son chemin. On a grandi tous ensemble, mais chacun a pris son chemin à la fin. Il y a beaucoup de gens qui sont partis en Grèce, d'autres qui sont partis ailleurs. Moi, je suis resté en France. Et il y a beaucoup de gens qui, effectivement, ont perdu la trace de tous ces étudiants, de tous ces amis. Et puis, il y avait trois personnages, je dirais, qui étaient de vrais caractères à Montpellier à cette époque-là. Trois étudiants, un d'architecture, Grégoire, l'autre œnologue, Thomas, qui ont décidé un jour de réunir toutes ces personnes qui ont vécu à Montpellier.
Alors là, on est vraiment dans un milieu méditerranéen, hein, parce que quand vous dites un néologue, ça veut dire effectivement que la vigne reste finalement quelque chose de fondamental sur tout le bassin méditerranéen, autant en Grèce qu'en France.
Tout à fait.
Alors vous, monsieur Georgiou, vous êtes reparti en Grèce, vous?
Je suis reparti de Grèce après mes études ici.
Oui, c'est ça.
Vous êtes rentré. À la fin des études, oui. Hein?
Bon, ça veut dire que, d'après ce que j'ai compris, donc vous vous êtes retrouvé entre étudiants grecs en France, mais uniquement. Alors vous avez rencontré un peu des Françaises ici?
Moi, je suis marié avec une Française.
Ah oui, donc vous n'êtes pas resté uniquement entre grecs alors?
Non. Et c'est, je pense que la richesse de cette association-là, c'est qu'il y a un mélange culturel. On a une racine qui est cette racine grecque, à qui on appartient tous, mais on a une culture française, je dirais, pour ceux qui ont vécu plus de 5-6 ans.
Alors je dirais une culture européenne.
Une culture européenne, exactement. Une culture européenne.
Monsieur Georgiou, alors vous êtes reparti en Grèce, vous êtes architecte en Grèce, mais vous ne vous êtes pas contenté de faire uniquement de l'architecture.
Parce que déjà ici, j'avais commencé à faire de la photographie. Et relativement tôt, assez sérieusement, dans le sens où, lorsque j'ai terminé mes études, les choses que je faisais en photographie se sont développées à des vrais travaux, des travaux de créatifs, et ça aboutit à des expositions, à des livres, aussi à la fondation d'un grand festival international de photographie à Thessalonique, en Grèce.
Et puis vous avez exposé aussi à Montpellier.
J'ai exposé à Montpellier parce que c'était la fin des années 90. Il y avait une association municipale qui s'appelait Montpellier Photovision, dirigée par, à l'époque, Roland Laboy, qui avait les yeux ouverts un peu partout dans le monde. D'ailleurs, lui aussi voyageait beaucoup à l'étranger pour recruter des bons photographes, et il m'avait demandé de refotographier Montpellier 20 ans après mon passage ici en étudiant, ce qui a abouti à une exposition au pavillon populaire, à l'Esplanade, où on exposait d'un côté mes photographies prises à Montpellier pendant les années 70 où j'étais étudiant, opposé à l'autre côté des photographies 20 ans après, lorsque j'ai revisité Montpellier pour un retour. Et donc, c'était un regard, comment on peut dire, un double regard.
Un retard croisé entre l'étudiant et finalement le professionnel.
Voilà, c'est ça, si vous voulez.
Alors maintenant que vous êtes revenu sur Montpellier, vous allez recommencer à nous faire des photos et puis présenter une troisième exposition sur comparatif entre ces trois périodes finalement. Le jeune, le salarié et puis maintenant le retraité.
Pas nécessairement.
Harris, il est modeste, mais il est en train de préparer un très bon livre sur toutes ces années-là. Oui.
Bon, eh ben alors il faut en parler, non?
Non, je prépare pas ça, mais, mais en effet, je constate que Montpellier change beaucoup. Et déjà, à l'époque où on était présent en étudiant ici, on était en mesure déjà de nous rendre compte des changements qui avaient déjà lieu, qui promettaient ce qui allait advenir de Montpellier un peu plus tard. Déjà, les changements urbanistiques, à l'époque, ils étaient visibles. C'était l'époque où on avait passé de Delmas à Fraîche. C'était l'époque où les grands travaux avaient déjà commencé. C'était l'époque où il y avait eu déjà le polygone, le triangle, et s'annonçait le Antigone. Tous trois d'ailleurs, je pense, des mots grecs d'origine.
Oui. Bah, on sait très bien effectivement l'amour qu'avait Georges Fraîche pour la Grèce.
Quasiment un helléniste, quoi.
Hein. Bon. Et aujourd'hui, bah, on est en train de passer à une autre période, une nouvelle période, la période post-fraîchiste.
C'est ce que nous constatons, nous, en visiteurs,
c'est
maintenant.
Vous. Hein. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a appris de venir ici, à Montpellier, pour vous réunir tous les anciens étudiants, parce que vous vous réunissez régulièrement, mais pas forcément à Montpellier?
Pas trop régulièrement, non. Je pense que, essentiellement, c'est la nostalgie, hein, en courant mot grec.
Bon, alors, écoutez,
c'est la nostalgie, effectivement. Si... C'est non seulement la nostalgie du pays, mais aussi de notre jeunesse, qui est associée à ce pays-là.
Eh bien écoutez, merci donc pour cette première approche et de ces premiers éléments pour nous expliquer un peu votre visite sur Montpellier. Et vous avez choisi, avec d'ailleurs Tony Anastopoulos, une première musique évidemment en grec qui s'appelle, alors je ne le dirai pas en grec parce que je suis incapable de parler le grec, qui s'appelle
Chrysoprasino Philo.
Oui, et qui signifie
La feuille dorée.
Thank you. Μοσκομίστο, πως λαλαγές αντίζα. Λιθάρια και ξερό δέντρα κι αηδονιά φτερουγίζα.
Eh bien, toujours sur Radio FM+, 91 MHz à Montpellier, 103.1 à Nîmes, en compagnie de messieurs, donc Michel Prassas, physicien-chercheur à Paris, hein, c'est ça ?
À Paris, oui.
À Paris, hein. Et monsieur, donc, Haris Georgiou, donc architecte-photographe. Monsieur Tony Agnagnostopoulos, président de l'association Regress France, et monsieur Julien Calvier, donc, qui est professeur à l'université Paul Valéry de grec moderne. Dites-moi, tout ça, ça fait pas... Vous êtes un peu, finalement, vous faites partie de la diaspora grecque en France, non ? Tous autant que vous êtes.
En tout cas, pas moi.
Oh oui, non, pas vous, non, mais vous faites partie... Mais vous êtes en Grèce, vous habitez en Grèce. Vous êtes en Grèce, oui. Donc, mais la diaspora grecque en France est importante ?
Je pense, mais Tony peut en parler mieux que moi, je suppose.
C'est une diaspora pas des grandes diasporas comme ça existe en Australie ou aux États-Unis. Etc.
Bah non, on est un petit pays, alors donc on va pas avoir une grande diaspora, nous. Hein.
Non, mais dans la proportion, par exemple, aux États-Unis, tout ça, il faut savoir que il y a le nombre de Grecs en Grèce, il y a à peu près 9,5 à 10 millions d'habitants. Et la diaspora, ce qu'on appelle tous les Grecs qui vivent à l'étranger, mariés avec des familles et tout, installés à l'étranger, il y a à peu près 8 millions et demi. Ça veut dire presque moitié-moitié.
La moitié de la population grecque est à l'étranger.
Ben, c'est pour ça que quand on dit la Grèce est 10 millions, ce n'est pas 10 millions, ils sont à peu près 18 ou 19.
Mais alors, ils ont tous la nationalité grecque.
Ah oui, ils ont pris la nationalité du pays où ils sont, mais ils ont gardé aussi la leur.
Monsieur Michel Passas, vous êtes à la fois grec et français ?
Je suis européen.
Vous êtes européen.
Ce qui veut dire que je circule avec mon passeport français. Et donc, je n'ai pas besoin d'avoir mon passeport grec, dans la mesure où, dans les continents européens, on n'a pas besoin de plusieurs passeports.
Bah, heureusement. Hein.
Heureusement. Donc, juste une précision sur la diaspora grecque, effectivement. Je crois que la plus grande population à l'étranger de Grecs, ils sont aux États-Unis. Et en Australie. Et de toujours, je crois, les Grecs étaient des aventuriers.
Aller
à la recherche
ne serait-ce que Monsieur Ulysse, par exemple.
Exactement.
Hein, vous avez quand même un ancêtre. C'est votre grand-père, non, peut-être ?
Non, mais ça pourrait.
Ça se pourrait. Bon, dites-moi là, je voudrais revenir maintenant sur une petite question sur cette parce que vous parlez remarquablement le français. Vous l'avez appris où ? C'est chez vous qu'ils sont venus apprendre le français ?
Je ne sais pas, il faut qu'ils le disent parce que bon, je n'enseignais pas à l'époque.
Évidemment. À l'époque, non, oui, vous êtes un peu jeune. Hein.
Je pense qu'à notre époque, il n'existait pas le département du grec moderne à Paul Valéry. Il ne me semble pas. À notre époque, ça n'existait pas.
Je ne crois pas, non.
C'est postérieur.
C'est postérieur. Et c'est Marie-Paul Masson qui avait lancé ça, je crois.
Bien sûr, hein, oui.
Hein ? C'est ça, hein ?
C'est Madame Masson, oui.
C'est Madame Masson qui avait c'est ça. Mais alors, vous êtes arrivé en France, vous parliez quelle langue, là, le grec ?
Je parlais un peu anglais.
Un peu anglais ?
Et puis, j'ai commencé à comprendre ce qui se passait autour de moi en troisième année d'architecture.
C'est pas mal, trois années, aller trois années d'universitaire pour ne rien comprendre, c'est pas mal. Remarquez, les étudiants aujourd'hui, est-ce qu'ils y comprennent beaucoup plus ? Non, enfin, c'est méchant ce que je viens de dire. Et vous avez appris où, vous, le grec, vous, monsieur Agnastopoulos ?
Mon histoire est un petit peu différente.
Ah oui, vous étiez dans le nord, vous, là-haut, je crois.
J'étais à Thessalonique et ma mère était française. Donc, j'avais la notion de la langue. J'ai parlé du grec, évidemment. Je suis allé à l'école grecque et les frères. Donc, j'avais fait un petit peu du français poussé. Et quand je suis venu à Montpellier, j'avais des notions bien... Ça ne m'a pas gêné.
Oui, et puis déjà, quand on a la langue maternelle, parce qu'on dit bien la langue maternelle, c'est celle qui est apprise par la maman, finalement. Hein.
Quoique ma mère, elle nous parlait en grec toujours.
Ouais. Oui, mais enfin quand même, il devait y avoir quand même des petites choses, non, si je ne me trompe pas.
Moi, j'étais nationaliste de cœur. J'aimais la Grèce.
Ah bah oui.
Depuis tout le temps, et ça m'énervait quand ma mère s'adressait en français. Je parle grec.
Ah ouais, et puis maintenant, vous parlez français.
Ah maintenant, bon, c'est moi.
Bon, mais dites-moi, là, quand on arrive, quand on, vous, au niveau du département de grec moderne, vous avez des étudiants qui viennent de Grèce aussi chez vous ?
Alors, on a à la fois des étudiants français, des étudiants grecs, des étudiants chypriotes aussi, et même de temps en temps des étudiants qui viennent des pays proches de la Grèce. Par exemple, on a eu un étudiant turc, on a eu une étudiante bulgare aussi cette année, donc des étudiants de pays balkaniques proches de la Grèce. Enfin, ouais. Essentiellement français, grec et chypriote.
Ouais, mais enfin les chypriotes, je veux dire, la langue officielle à Chypre, c'est quand même le grec.
C'est le grec, bien sûr, les étudiants chypriotes parlent le grec, ils ont aussi le dialecte, hein, qui est très vivant à Chypre, et donc qui est évidemment une forme de grec aussi, hein, mais qu'on appelle le chypriote.
Le chypriote, oui, mais la langue officielle, c'est le chypriote ou le grec alors,
La langue officielle, c'est le grec, et à Chypre, il y a le turc aussi, bien sûr.
Ah oui, bah, bien sûr, oui, ça on le sait.
Qui est essentiellement parlé dans la partie nord de l'île qui est occupée.
On sait pourquoi.
Par la République de Turquie.
On sait pourquoi. Hein. Merci les colonels. Excusez-moi. Non, mais je ne sais pas si j'ai dit une bêtise en disant ça.
Non. Hein? Je pense que bon, c'était une période quand même assez difficile pour tout le monde. Et j'espère que le fait que Chypre fait partie de l'Union européenne aujourd'hui et que la Turquie a le souhait d'intégrer cette Union européenne, qu'un jour on verra l'île de Chypre réunie. Comme c'était dans le passé.
Oui, c'est pas gagné. Hein.
C'est pas gagné, mais il faut espérer.
Bon, et alors, quand on est un étudiant qui arrive finalement de... Mais qu'est-ce qui vous a amené à venir faire des études en France ?
Bonne question.
Qu'est-ce qui vous a amené ? Parce que franchement,
alors, je vais
vous dire, arrivez dans des gens qui ne parlent pas la même langue, vous faut 3 ans pour suivre une heure de cours, c'est un peu curieux comme démarche. Et en plus, quand on parle anglais, alors pourquoi vous n'êtes pas parti en Angleterre ?
Alors, moi, je peux parler pour mon cas perso.
Je pense qu'Aris
va vous parler de son cas, et Tony aussi. Mais mon cas, il était dans la lignée des étudiants qui passaient un concours en Grèce, qui était extrêmement difficile. Et qu'il est passé d'ailleurs plusieurs fois avec l'objectif d'intégrer une grande école et qu'une grande majorité de ces étudiants-là les rataient puisque les places étaient très 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 limitées. Et donc une population de ces étudiants-là allait en Italie, d'autres allaient en France et d'autres allaient en Angleterre. Moi j'ai choisi la France puisque au lycée, la langue qu'on faisait c'était le français et j'avais l'impression que je comprenais et que je pourrais parler le français.
Ah oui,
Quand je suis arrivé en France, évidemment je ne comprenais plus rien.
Ouais, mais ça c'est un grand classique, hein. Je veux dire, on passe le bac en France, on apprend l'anglais et quand on se dit bah, quand je vais arriver en Angleterre, aucun problème, je parle parfaitement l'anglais et quand on arrive en Angleterre, on ne comprend rien du tout à ce qu'il raconte. Hein. Mais ça c'est un grand classique et c'est tout à fait logique. Vous nous expliquerez aussi vous pourquoi vous êtes venu, mais on va tout d'abord passer une deuxième morceau de musique.
Μικρού βοριά παραγγείλα να'ναι καλό παιδάκι μη μου χτυπάει πορτοφύλλα και στο παραθυράκι. Γιατί στο σπίτι που αγρυπνώ η αγάπη μου πεθαίνει και μες στα δάκρυα την κοιτά μόλις ανασένει. Γεια σας περβόλια, γεια σας ρε ματιές, γεια σας φιλιά και γεια σας αγκαλιές. Γεια σας η κάδη και η ξανθιαλή, γεια σας η όρκη η παντοτινή. Πνίγει το παραπονό γιατί στον κόσμο αυτόνα τα καλοκαίρια τα χασά και έφτασα στο χειμώνα. Σαν το καράβι που άνοιξε τα αρμένα κι αλλαργεύει θάρρο να χάνουν τις στεριές κι ο κόσμος λιγοστεύει. Γεια σας περβόλια, γεια σας ρε ματιές, γεια σας φιλιά και γεια σας αγκαλιές,
Γεια σας οι κάμοι δείξαν τη γυαλή, γεια σας οι όρκοι οι παντοτινοί. Φιλιά και γεια σας αγκαλιές, γεια σας οι κάμπι τη ξανθιαλή, γεια σας οι όρκοι οι παντοτινοί.
Eh bien, toujours en compagnie de messieurs Michel Prassa, Aris Georgiou, Tony Anagnostopoulos et Julien Calvier, donc sur Radio FM+, 91 MHz à Montpellier, 103.1 à Nîmes. Nous allons continuer à parler un petit peu de cette rencontre, finalement, qui a lieu ces jours-ci sur Montpellier, entre ces anciens étudiants qui sont venus étudier à Montpellier, et puis leurs amis qu'ils ont gardés aussi en France. Je vais revenir, monsieur Georgiou. Qu'est-ce qui vous a pris, vous, de venir en France ?
Je suis d'accord avec Michel Prassas qui a expliqué un peu la raison. C'était effectivement le fait qu'il n'était pas facile d'accéder aux universités grecques à cause de ce fameux concours qui d'ailleurs existe toujours, sauf que les universités sont plus nombreuses, donc il n'y a plus de place.
Alors donc vous étiez des mauvais élèves ?
Je n'étais pas très bon en tout cas.
On peut dire ça, effectivement. Oui. On n'était pas des élèves à la hauteur du concours grec à cette époque-là.
Excusez-moi.
Vous avez tout à fait raison.
Et vous êtes devenus d'excellents élèves, finalement. Parce que ceux qui ont réussi, eux, ils parlent peut-être pas le français comme vous. Et ils ont peut-être pas l'ouverture d'esprit que vous avez maintenant.
Ah, mais ça, c'est autre chose, je pense. Hein. Être bon élève et avoir un esprit ouvert, c'est peut-être pas tout à fait compatible.
Alors, il vaut mieux être bon élève ou avoir un esprit ouvert, monsieur Calvier ?
Qu'est-ce que vous dites, il faut ?
Il vaut mieux être bon élève ou bien avoir l'esprit ouvert ?
Je sais pas, enfin bon.
C'est important, bah, non ?
Moi, je peux vous dire que je ne regrette pas du tout le fait d'être venu en France, dans la mesure où je vois que c'est une richesse immense d'aller vers l'autrui, d'aller vers cette intégration culturelle où on a beaucoup de choses à apprendre. Et ça nous met dans des situations qui nous permettent aussi de voir ce qui ne va pas dans notre propre société, je dirais. Donc, un mauvais élève qui est devenu un très bon observateur des sociétés sur lesquelles on vit.
Entièrement d'accord.
Alors donc, vous êtes arrivé en France par choix ? Le choix du pays.
Le choix du pays.
Pourquoi pas l'Italie ?
Pourquoi pas l'Italie ? Je détestais le choix de l'Italie parce que vraiment...
Je ne le dirai pas à mes amis italiens.
Non, j'adore les Italiens, j'adore l'Italie, sauf que le choix de l'Italie pour les études à l'époque en Grèce vraiment représentait vraiment les plus mauvais élèves en Grèce.
Exactement. Mais pourtant...
Et j'irai un peu plus loin, les professionnels que nous avons obtenus en Grèce, qui venaient des universités italiennes après leurs études... C'est vraiment pas les meilleurs professionnels actuellement.
Alors ça, c'est étonnant, parce que vous êtes architecte, et c'est quand même l'Italie qui est un pays de bâtisseurs.
Effectivement, bien sûr.
Et là...
La France aussi, hein.
Ah oui, tout de suite.
Non, mais c'est vrai. Mais ça dépend justement du niveau d'études et comment les universités italiennes... traiter les étudiants étrangers avec moins de rigueur, avec plus de bon pour l'Orient. Voyez un peu le... Tandis que ce n'était pas pareil en France. Effectivement, je suis d'accord avec Michel du fait que notre vécu en France nous a permis d'apprendre beaucoup plus de choses, d'avoir l'esprit ouvert sur plein de choses qu'on n'aurait pas eu accès en Grèce. Et effectivement, on n'est pas devenu meilleur élève, mais peut-être on est devenu plus riche en culture et en savoir.
Et ça, c'est pas rien quand même.
C'est immense.
C'est immense. Hein?
C'est immense.
Ça, on s'en
rend pas compte tous les jours.
Donc, il faut effectivement inciter nos étudiants, n'est-ce pas, Monsieur Calvier, il faut inciter nos étudiants à partir à l'étranger.
Partir à l'étranger, bien sûr. Hein. Ah. Pas, pourquoi, en Grèce ou d'ailleurs partout.
Enfin, partout. Bien sûr. Rencontrer les autres. Rencontrer l'autre, c'est ce que vous avez fait. Et vous en avez gardé la langue française, vous. Alors que vous êtes retourné en Grèce, vous auriez très bien pu, au bout d'un certain temps, reparler que le grec.
Ah non, non, mais je la cultive, la langue française. Je lis beaucoup du français, je lis la littérature française. Et notamment, c'est l'occasion de mentionner Modiano, qui était d'origine de Thessalonique,
oui,
de Grèce.
Hein. On a une place qui s'appelle Modiano à Thessalonique.
Hein. On n'a pas une place,
marché
on a un marché Modiano, c'est de la même famille. Et puis Modiano, méditerranéen et thessalonicien d'origine, rejoint aussi cette histoire de méditerranéité. Hein. Vous avez eu Leclésio aussi méditerranéen, vous avez eu Camus aussi méditerranéen.
Eh oui. Hein.
Je veux dire, vos Nobel, ils tournent autour de la Méditerranée.
Bah, l'Europe, elle tourne autour un peu de la Méditerranée, non?
C'est le berceau, hein, c'est le berceau.
Oui,
la
quand même un peu.
C'est le berceau. Et rien qu'à penser à la Grèce et l'Italie. Enfin, je veux dire,
est-ce que vous essayez de transmettre cet amour de la France et de la langue française, de la littérature, de la culture française en Grèce aux gens que vous connaissez
Effectivement, oui, bien sûr.
Il y a une tradition.
Et d'ailleurs, j'ai été traducteur aussi.
En fait, en Grèce, voilà.
Les
j'ai traduit
ils adorent les Français
Boris Vian en grec, notamment. Enfin, j'ai fait le traducteur un petit peu aussi.
Pourtant, le français se perd en Grèce quand même par rapport à l'anglais, non?
Oui.
Oui, ça se perd. Mais bon, il faut savoir que la Grèce était toujours pro-France. À l'époque de la Première Guerre mondiale, à Salonique, il y a eu des batailles et tout ça. Il y a les corps français qui ont participé à cette bataille des Balkans. Et ils ont, les Grecs, surtout le nord de la Grèce, avec Salonique, ils ont gardé cette tradition philo-française.
Effectivement, la France a toujours été proche de, comment s'appelle, de la Grèce. Enfin, la Grèce a toujours été proche de la France. Hein,
surtout, oui.
Hein, pendant les différents conflits. Hein, et c'est vrai que ce qui a empêché finalement la Grèce de rentrer dans l'Union européenne pendant des années, c'est finalement cette dictature, parce que ça, il ne faut pas l'oublier, c'est ça qui a empêché la Grèce, parce que la Grèce devait rentrer dans l'Union Européenne au tout début. Hein. Elle était, je veux dire, bon, on se rappelle tous le film Les Camons de Navarone, par exemple, des choses comme ça. Hein. Et donc ce côté très, très, très européen, finalement, de la Grèce, continue à se cultiver.
Oui, oui. Et toujours, il ne faut pas oublier que la Grèce a été toujours au devant et toujours participé dans tous les conflits avec l'Europe, donc c'était un pays qui participait réellement dans tous les conflits, hein. Toujours avec l'Ouest, toujours.
Et Monsieur Calvier, alors vous qui êtes enseignant à l'université Paul Valéry, donc vous participez à cette connaissance de la Grèce, et est-ce que vous incitez je pense que vous incitez les étudiants français à apprendre le grec. Mais est-ce que le grec est une langue facile? Parce que d'abord, ils écrivent avec des lettres bizarroïdales. Hein ça, non, mais très franchement, pour nous autres, latin, c'est bizarre comme écriture, c'est comme les Russes, quoi, je veux dire. Hein
bon, l'alphabet n'est pas très difficile à apprendre. Bon, on a parfois quelques étudiants français qui ont fait du grec ancien, donc l'alphabet est le même hein, qu'en grec ancien, bien sûr. Et c'est plutôt un côté exotique qui attire les étudiants, je pense, en fait, l'alphabet. Bon.
Ah ouais, faudrait pas rester sur l'exotisme de la Grèce. En tout cas, écoutez, moi je ne souhaite pas que cette émission soit une émission totalement exotique. Je vous engage donc à quitter, d'arrêter, parce que là-bas, là, au niveau de la technique, ils me font signe qu'on arrive en fin de parcours et qu'on n'a plus de temps. Alors, ce que je vous propose, c'est que vous saluez nos amis de Radio FM+, en leur disant au revoir, mais en grec.
Γεια σας.
Γεια χαρά σας, να είστε καλά.
Χαρήκαμε πολύ που μας ακούσατε όλοι οι υπεύθυνοι του ραδιοφωνικού σταθμού.
Merci, j'ai rien compris.
Eh bien, je vous remercie de nous avoir invités. Et en grec, merci, se dit « Ευχαριστώ ».